Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat consacré ce soir à la situation de la jeunesse en temps de Covid. À l'ordre du jour ce soir, jeunesse, comment éviter le décrochage ? Cela fait des mois que syndicats étudiants et professeurs alertent les médias et les gouvernants. Malgré les aides mises en place, les nouveaux dispositifs inventés, eh bien la jeunesse va mal. Si on ne peut pas dire avec assurance, comme l'a fait le Premier ministre Jean Castex, que les suicides augmentent chez les jeunes étudiants, la détresse psychologique alliée à la précarité sont-elles bien attestées ? Mais elle ne touche pas que les étudiants, scolaires déboussolés par la crise, apprentis sans entreprise pour les embauches, stagiaires sans stage, entrés dans un monde du travail sans travail, toutes et tous tente de comprendre un avenir incertain, un avenir brouillé et qui s'enfuit quand on tente de le saisir. Nous en parlerons en compagnie de Patrick Skehan, pardon. Vous êtes fondateur et délégué général de Nightline. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous expliquerez ce qu'est Nightline. Monique Dagneau est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et directrice de recherche au CNRS et vous avez beaucoup travaillé justement sur la question de la jeunesse. Apparaître d'ailleurs, génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France, c'est chez Oldie Jacob avec Jean-Laurent Casselli, c'est à sortir très bientôt. Et puis Laurent Gerbeau est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, directeur du pôle santé handicap étudiant à l'université de Clermont-Auvergne et président de l'association des directeurs de services de santé universitaire là-dessus. Et tout de suite, on peut écouter effectivement un extrait de la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui se trouvait samedi chez Hervé Gardel sur France Culture dans Politique.
Effectivement, il y a une souffrance psychologique très forte. Et ça, ce sont les remontées des données des services de santé universitaires qui nous le disent, avec une hausse du nombre de consultations en psychologie qui peuvent aller parfois jusqu'à une augmentation de 30%. C'est pour ça que nous avons doublé les capacités de psychologues employés par les établissements et que nous avons créé aussi 60 postes d'assistantes sociales pour faire en sorte que les étudiants qui en ont besoin puissent avoir rapidement des rendez-vous et être pris en charge. Après, sur la question des suicides, d'abord, ce sont des sujets multifactoriels.
Ouais.
Et puis ensuite, très souvent, c'est aussi couvert par le secret médical. On n'a pas d'augmentation massive du nombre de suicides constatés, mais il y a effectivement des étudiants fragiles qui se suicident, mais sans qu'on puisse forcément faire de liens particuliers. Pas de hausse de ce point de vue-là, mais une hausse de 30% des consultations en psychologie.
La ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, c'était samedi dernier, avant-hier, dans Politique sur France Culture avec Hervé Gardette. Alors Laurent Gerbeau, c'est ce que dit Frédéric Vidal, c'est-à-dire on ne peut pas très bien savoir pour le nombre de suicides, mais en revanche, les consultations en psychologie, c'est tout à fait exact d'après votre expérience ?
Alors, on va dire que c'est exact à partir des informations dont on dispose, parce qu'on n'a pas des très très bons systèmes d'information qui nous permettent d'avoir une vision rapide de la situation. Mais il est très clair qu'on a une forte demande de consultations dans le domaine psy en général, que ce soit des psychologues ou des psychiatres, à partir de, disons, de la moitié du mois d'octobre. L'autre point, c'est que sur les tentatives de suicide, on n'a pas d'argument pour dire qu'il y a une augmentation de tentatives de suicide. Donc, faudra qu'on voit d'où viennent les données du
faire une épidémiologie de la question.
Oui, puis c'est probablement. Enfin, nous, ce qu'on anticipe, c'est que les choses aussi vont pas aller rapidement en s'améliorant et qu'il y aura aussi une forte demande avec le problème des partiels, d'où la grève dont vous avez parlé ce matin, en tout cas du mouvement devant Paris 4, et d'où le fait qu'un certain nombre d'étudiants vont être confrontés à des échecs où habituellement ils n'auraient pas été confrontés.
Oui, et pour votre part, Patrick Skehan, vous avez fondé, vous êtes le délégué général de Nightline. Nightline, c'est un centre d'écoute justement entièrement dédié aux étudiants. Cette question des suicides ou cette question de l'angoisse, de la dépression des étudiants, de la solitude des étudiants, vous la notez par l'écoute que vous faites de ceux qui vous appellent ?
Oui, c'est ça. Bah, Nightline, c'est une association qui travaille sur la question de la santé mentale étudiante et on a ces services d'écoute qui sont tenus par des étudiants bénévoles. Et ce qu'on voit depuis le début du confinement, c'est que Enfin, c'est ce que les bénévoles écoutants me disent, c'est que chaque situation est accentuée sans pire par la crise sanitaire. Et du coup, on voit notamment beaucoup plus de solitude chez les étudiants en ce moment, ce qui est assez cohérent vu la crise sanitaire.
Oui, parce que Monique Dagnaud, la question de la vie étudiante, ce n'est pas que la vie que l'on a dans les amphis, dans les cours qu'on reçoit, mais c'est la vie étudiante. Et la vie étudiante, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que le simple cours que l'on reçoit de ses professeurs.
C'est sûr que, en fait, l'univers des étudiants, c'est pas être en face à face avec des profs et avec d'autres étudiants. C'est toute une vie relationnelle, conviviale, d'opportunités qui se présentent sur les campus, des opportunités de rencontres, d'offres culturelles. Et la vie étudiante, en général, qui s'étale sur plusieurs années, c'est aussi pour ceux qui ont la chance de pouvoir la vivre, donc c'est-à-dire à peu près la moitié d'une génération, eh bien, c'est quand même, ce sont des années de maturation, de réflexion, où on construit un peu, son avenir, et évidemment pas que professionnel, mais aussi quels sont ses désirs, comment on va s'orienter. Bon, c'est une phase d'expérimentation. C'est en soi un sas initiatique pour une partie de la jeunesse.
C'est ce que vous dites dans un article récent que vous avez publié sur le site Telos. Vous dites c'est un sas initiatique en soi et ça n'a rien à voir avec le fait de suivre les cours par écran en particulier.
Bien sûr. Et d'ailleurs, j'avoue que j'étais un peu surprise quand j'ai vu que, en fait, à partir disons du mois mars, avril, tout le monde était obsédé par l'école. Mais l'université, moi j'enseigne évidemment à l'université, était finalement, elles ont fermé très très vite pratiquement pour ne pas rouvrir. Elles n'ont pas ouvert en juin, elles ont réouvert un petit peu en octobre pour ensuite repartir dans la fermeture. Et donc, bon, il y a eu une période de mise en place, parce qu'en plus, pour mettre en place tous les dispositifs technologiques pour assurer des cours, mais ça a pris du temps. Et donc, j'étais un peu surprise qu'on fasse la passe aussi facilement sur l'univers étudiant. Bien sûr, quand on a 20 ans, on est plus autonome, on peut davantage se débrouiller que des élèves du secondaire, encore plus du primaire, mais j'étais surprise, ça n'a pas fait véritablement l'objet d'un débat public à ce moment-là.
Et vous le regrettez aussi, cela, Laurent Gerbaud, du poste que vous occupez en tant que médecin et directeur du pôle de santé handicap étudiant à l'université Clermont-Auvergne?
Oui, bien sûr. Et je voudrais vraiment insister sur ce point. C'est que les études, c'est la vie étudiante avant tout. La vie étudiante, c'est une condition nécessaire, on va dire non suffisante pour réussir ses études. Mais si elle n'est pas présente, elle n'est pas là. Et que cette vie étudiante, c'est du lien social. Nous, en tant que service de santé, on intervient, j'allais dire, quand les choses sont abîmées pour réparer. Mais l'idéal, c'est évidemment de prévenir. On est aussi des services de prévention. Et il est clair que la culture, le sport, tout ce qui est la vie en présentiel, elle est extrêmement importante et l'être humain a besoin de cela.
Et cela, vous vous en apercevez comment justement de cette vie abîmée de ceux et de celles qui viennent vous voir, Laurent Gerbaud?
Ben, c'est par les consultations. Alors, on a un système qui permet aux gens parce qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à faire face en termes de consultation. Donc, on avait un système de gestion de file d'attente. Les gens demandaient des rendez-vous. On prenait contact avec eux pour savoir pourquoi. Et on leur expliquait à quel moment on pouvait les voir, de façon à éviter que les choses se passent mal en attendant. Mais ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a eu l'association d'une souffrance sociale avec les pertes de revenus liées à la disparition des petits boulots, le fait que les petits boulots dans l'été, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a notamment chez les étudiants qui sont en première année de l'université, qui ont connu une première atteinte dans leur réseau social au moment du premier confinement quand ils étaient en terminale. Après, il y a eu le passage du bac, donc le réseau social se reconstitue pas vraiment. Ils arrivent à l'université, il faut le mois de septembre pour comprendre comment ça fonctionne, où il faut aller, quel cours, etc. En octobre, on commence à tisser les liens, et là, il y a le deuxième confinement. Et ce qui a été caractéristique pour nous cette année, c'est cette forte augmentation de la demande des étudiants de première année.
Patrick Kian, c'est ce que vous notez aussi à Nightline, donc dans ce service d'écoute que vous avez monté en 2016, cette association d'écoute, alors que vous étiez vous-même étudiant. C'est exactement ce que vous notez, ce que vient de dire Laurent Gerbaud?
Oui, enfin, on le rejoint pas mal. On voit qu'il y a des problèmes globaux qui émergent pour l'ensemble des étudiants, donc notamment la solitude et le fait que le confinement est évoqué dans chacun des appels. En fait, ça a bouleversé complètement la vie de l'ensemble des étudiants. Et puis on voit que pour chaque catégorie d'étudiants, donc les étudiants L1 ont des problématiques spécifiques qui sont différentes des problématiques des étudiants en master. Pour les étudiants L1, je rejoins complètement Laurent, ils ont imaginé l'université autrement. Et du coup, ils arrivent à la fac, ils peuvent pas faire des amis, ils ont seulement leurs cours en ligne, personne ne les aime de suivre ces cours en ligne, donc ça renforce une solitude qui est déjà présente parce qu'on est nouveau à la faculté, il faut qu'on se fasse des amis, c'est vraiment pas facile. Et puis, il y a d'autres problématiques qui émergent pour d'autres groupes d'étudiants, notamment les étrangers et puis les étudiants en master qui doivent trouver des stages ou qui pensent à qu'est-ce qu'ils vont faire après leurs études avec la situation économique qui va arriver après la crise Covid.
Oui, alors il y a effectivement normalement des étudiants référents qui ont été nommés, en particulier pour, dans chaque résidence universitaire, prendre en compte, essayer de comprendre justement les difficultés psychologiques. Mais cela, évidemment, ça a été fait sous le coup de la crise très récemment. On en a nommé, je crois, 1600 très récemment. Mais Monique Dagneau, ça n'est pas, disons, quelque chose de pérenne. Et peut-être ce dont on peut se plaindre, c'est justement de ne pas avoir imaginé qu'une crise comme celle-ci puisse arriver et puisse mettre dans une telle précarité et une telle détresse les jeunes étudiants et les jeunes en général.
Il faudrait savoir de combien de personnes on parle. Les étudiants en France, c'est 2,5 millions personnes environ. Alors avec dans des statuts très différents, il y a évidemment une masse de première année, mais il y a aussi les écoles, les plus ou moins grandes, grandes ou moyennes écoles, où sans doute l'encadrement est plus elle réagit peut-être plus rapidement. Mais dans les gros de l'université, c'est 1,6 million étudiants, pendant un certain temps, on s'est dit, ensuite il y aura du rattrapage avec des examens plus tard, et puis ils peuvent bien se débrouiller tout seuls avec des livres. Maintenant, ils sont tous experts en matière numérique, mais déjà, il faut que les universités les dotent des moyens. On a mis en place effectivement des dons ou des prêts pour avoir à la fois des meilleures connexions Internet, des ordinateurs performants et tout ça. Mais déjà, ça a pris du temps. Mais ce que je pense quand même, c'est que dans cette phase, la vie étudiante, c'est quand même une période d'incertitude, mais où on sait où on va aller. Parce qu'on construit son parcours, tandis que là, ça va être une période qui va durer, de mon point de vue, ça va être à peu près 2 ans, je ne dirais pas de perdu, mais 2 ans extrêmement difficiles. On verra après, peut-être que le Covid va durer encore beaucoup plus longtemps. Mais disons, l'année dernière déjà, en 2020 et même en 2019, il y a eu toute une période où il y avait beaucoup de grèves, où il y a eu des grèves pour effectivement les retraites, ensuite pour la réforme sur la recherche. Donc déjà, l'université fonctionnait à moitié. Ensuite, il y a eu le
Covid. En même temps, on peut dire que quand il y a des grèves à l'université, c'est aussi parce que les étudiants prennent conscience de leur place de citoyen
et de leurs difficultés. Tout à fait, de leurs difficultés. Et notamment, un point important qui est le débouché pour ceux qui engagent des études longues.
Bien sûr.
Et qui vont faire, par exemple, un doctorat. Bon, c'est pas l'énorme masse des étudiants, parce que c'est 1 ou 2% des étudiants, mais quand même, la question de la recherche était très importante, la question des postes. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés, à mon avis, complètement sans socle. Et une grande partie d'entre eux, pour des raisons économiques, est retournée vivre dans sa famille. Il y a 39% des étudiants qui sont retournés aller vivre ailleurs. Mais si vous prenez aux États-Unis, un des effets absolument incroyables du Covid, c'est que la moitié de la génération des moins de 30 ans habitent chez leurs parents aujourd'hui. Alors, ça a peut-être un peu changé, mais parce que c'est plus que pendant la récession, la grande récession. Parce que finalement, le point d'ancrage où vous pouvez vous retrouver, aider, voir d'autres personnes, c'est la famille.
Oui, donc, Laurent Gerbeau, vous le notez cela aussi, ce retour à la famille, parce que c'est le point d'ancrage, comme vient de le dire Monique Dagneau, avec aussi cette idée que, au moins, si on est dans la famille, on n'a pas de dépenses superflues, on n'a pas l'occasion de sortir de quoi dépenser, même pour déjeuner ou dîner, et cela, ça peut compter aussi dans un budget étudiant.
Alors, C'est un peu différent, je trouve. Enfin, le constat qu'on peut faire, c'est que c'est un peu différent entre le premier et le deuxième confinement. Le premier confinement, ça a été vraiment un retour massif au niveau de la famille, avec un peu ce réflexe de protection qui est présent. Sur le deuxième confinement, on a plus une tentative aussi de rester et de s'accrocher à ce qu'on peut trouver comme bout de vie universitaire. C'est vrai que dans le deuxième confinement, par exemple, il y a des travaux pratiques qui ont été maintenus. Tout n'a pas été complètement fermé. Et voilà. Et puis, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Monique Danu en étant entièrement d'accord. Les cours, et en tant que prof de santé publique, j'en fais beaucoup, les cours à distance, ce sont des ersatz de cours. Parce que même en tant qu'enseignant, c'est très difficile de ne pas pouvoir s'appuyer sur un public donné, même quand c'est dans un amphi. Ouais. De ne pas avoir le minimum d'interaction au moment des pauses. Et c'est quelque chose qui est très simplifié. Et il faut y faire attention, parce que l'enseignement, c'est aussi du rapport humain.
Oui. Patrice Kehan, c'est ce qu'on vous dit aussi. Vers qui se tournent-ils, les étudiants? On a compris que votre association leur sert à de lieu d'écoute, mais vers qui se tournent-ils quand ils ont une détresse psychologique? Vers vous, peut-être dans un premier temps, et ensuite, ils vont essayer d'aller ailleurs, vous allez les orienter vers des professionnels de l'écoute, du soin?
Ben, il y a beaucoup d'étudiants, oui, qui nous sollicitent à travers les services d'écoute qu'on a à Paris, à Lyon, Lille et Saclay. Et puis par la suite, il y en a certains qu'on oriente vers les services professionnels, comme les services de santé universitaire. Il y en a beaucoup aussi qui les sollicitent tout seuls. Mais quelque chose d'assez intéressant que les bénévoles m'ont dit récemment, c'est que il y a beaucoup d'étudiants qui se sentent pas forcément légitimes dans leurs difficultés en ce moment pour demander de l'aide. Nous, on avait travaillé avec un YouTuber récemment pour faire une vidéo pour encourager les étudiants à demander de l'aide. Et par la suite, on a eu beaucoup d'appelants qui ont dit aux bénévoles qu'ils étaient en difficulté, mais ils voulaient pas demander de l'aide à quelqu'un parce qu'ils trouvaient que c'était une période extrêmement compliquée et que oui, ils avaient des problèmes, mais peut-être ces problèmes-là étaient pas aussi gros que d'autres problèmes qui existent dans la société. Et du coup, je pense que il y a un problème avec la demande d'aide de la part des étudiants, et c'est quelque chose qu'on a aussi vu dans les chiffres. Il y a seulement 12% des étudiants présentant un trouble psychologique qui ont déclaré consulter un professionnel de santé pendant le deuxième confinement, je pense. Et du coup, il y a un problème avec ça.
Oui, Monique Danu, vous avez trouvé une expression que je trouve tout à fait excellente pour cet article de Télos. Vous dites c'est la génération des destins brouillés. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est la génération des destins sur lesquels pèse beaucoup plus d'incertitudes que pour les générations d'avant. Quand vous êtes étudiant, en fait, notre société, elle est faite par des agendas. Chacun a son agenda. Vous passez le bac, ensuite, vous choisissez des orientations. D'ailleurs, souvent, ces orientations sont rebattues au cours de la vie étudiante. Mais disons, vous avez finalement un soutien, une vision, une certaine visibilité. D'ailleurs, je cite dans ce même article un film de Pascal Ferrand qui, dans les années 90, a eu beaucoup de succès, qui s'appelait « L'âge des possibles ». C'est vrai que entre, disons, 18 et 25 ans, c'est à la fois une période difficile, mais en même temps, le monde est ouvert et il y a des possibles.
D'autant plus d'ailleurs qu'avec Erasmus, par exemple, on pouvait se rendre à l'étranger. Pas tout le monde, mais certains étudiants pouvaient le faire effectivement et découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres types d'études, etc., etc.
Mais si vous voulez, le cursus universitaire, alors si on ne parle que du cursus universitaire, il exige non seulement évidemment que vous emmagasiniez des connaissances, mais il exige que vous fassiez des mémoires, que vous fassiez des enquêtes, que vous sortiez de l'université et que vous soyez dans le monde réel, et ça de plus en plus. On vous demande des stages, on vous demande évidemment pour un certain nombre de cursus des séjours à l'étranger.
Toutes choses qui sont interdites aujourd'hui.
Tout s'est arrêté. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, effectivement, je trouve bien qu'il y ait des psychologues, des psychiatres qui entourent les étudiants, mais en même temps, je me demande s'il n'y a pas dans l'université aussi une demande pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Est-ce que c'est bien finalement de continuer ce cursus qui est peut-être pas ne mène pas peut-être à grand chose? Est-ce qu'on peut pas se revisiter un peu ses objectifs, réévaluer ses objectifs? Et je me demande si dans l'université, il ne doit pas y avoir des gens qui aident les étudiants à repenser leur futur, oui, y compris avec leur cursus scolaire.
Laurent Gerbeau, vous pensez quoi de cette proposition de Monique Dagneau?
Je pense qu'elle est importante. Alors pour dire, nous, on intervient quand les choses ne vont pas bien. Et l'idéal, c'est qu'on n'ait jamais à intervenir. Je voudrais vraiment insister sur ce point-là. C'est relativement récent que des questions comme la santé des étudiants soit portée au niveau de la conférence des présidents d'université et du ministère de l'enseignement supérieur.
Et que la ministre elle-même s'exprime sur le sujet, ce qu'elle ne faisait pas auparavant.
Ce qui ne se faisait... Alors, il y a eu le plan national vie étudiante en 2015. Il y a eu comme ça des petites tentatives, mais que ça devienne un enjeu central, c'est vraiment quelque chose de récent. Et on est dans la situation où on a des services de santé universitaire qui existent, mais qui sont des structures très fragiles, elles sont faibles, et on est dans la situation où passer de la logique où l'université, c'est l'enseignement et la recherche, point, à il y a plusieurs conditions qui sont le lien social, qui sont l'état de santé physique ou mental, qui sont ces conditions-là pour permettre de réussir, on n'a pas encore basculé en termes de modèle.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, des premières manifestations commencent à se mettre en place en temps justement de Covid. C'était cet après-midi devant Paris 4 à Paris, donc devant la Sorbonne, une étudiante en licence 2 de géographie. Alors, on a un rassemblement devant l'université ce midi, des étudiants qui protestent contre la tenue des partiels, car ils estiment qu'avec les conditions actuelles, matérielles en particulier, eh bien, les étudiants ne sont pas égaux dans la préparation de ces épreuves. C'est un reportage d'Imane Gilles.
Certains n'ont pas de connexion, d'autres doivent manger, d'autres doivent avoir un logement à assumer. Et on a des partiels en présentiel là, mais sauf qu'en fait on a eu des cours en distanciel, c'est-à-dire qu'on a vu des vidéos et on n'est pas sûr que ce soit la bonne manière de noter les étudiants. En fait, de vouloir à coûte que coûte avoir des notes alors que les conditions ne sont pas réunies.
Ce qui a été voté, c'est qu'en gros, on fait bloquer toute la semaine et tous les jours, on va se rassembler, faire une AG pour voir si on bloque ou pas.
France Culture.
Voilà.
Le temps du débat.
Toute la semaine.
Emmanuel Laurentin.
On est là pour nos droits.
Et oui, la vie étudiante, c'est aussi les AG tous les jours, pendant toute la semaine. Ça fait partie aussi de cette vie étudiante. Patrick Skehan, on peut dire qu'il y a des disparités aussi géographiques sur le territoire. Vous qui travaillez à Nightline, donc ce centre d'écoute que vous avez fondé, cette association d'écoute, ça n'est pas la même chose partout en France, j'imagine.
C'est un peu difficile à dire parce que c'est seulement récemment qu'on a ouvert nos antennes en dehors de Paris. Ce qu'on a plutôt constaté, c'était la différence entre les différentes catégories d'étudiants, avec les élèves, comme j'ai déjà dit, qui ont beaucoup de problèmes de solitude, et puis d'autres étudiants en licence qui, il y en a beaucoup qui ont perdu leur job alimentaire et ça crée beaucoup de difficultés. Et puis on a même des thésards aussi qui ont perdu leur job aussi, et ça les oblige à se poser la question de comment ils vont financer leurs études, comment ils vont continuer, est-ce qu'ils doivent s'arrêter et trouver autre chose à faire. Donc c'est plutôt sur les catégories que sur les disparités géographiques qu'on peut commenter.
Oui, Monique Dagneau.
Ah oui, ça évidemment, j'adhère totalement à cette appréciation parce que en fait, pour une part des étudiants, perdre 2 ans s'ils sont bien entourés, s'ils ont suffisamment de relations pour finalement trouver quelque chose à faire, quelque chose d'intéressant, même peu rémunéré. Parce qu'ils font partie d'un univers assez privilégié. Finalement, c'est moins grave. Mais il y a une partie des étudiants pour lesquels l'université, c'est tout. C'est la perspective le plus rapidement possible d'avoir un diplôme et donc ensuite de s'insérer dans la vie professionnelle. C'est aussi tous les liens, on l'a dit 50 fois, mais c'est-à-dire l'université, elle vous fournit des éléments pour éventuellement trouver une filière d'emploi, compléter certaines connaissances, apprendre des langues.
Rencontre,
je veux dire, donc pour une partie d'étudiants qui n'ont pas ça dans leur propre milieu social, l'université, elle est encore plus importante dans ce qu'elle fournit comme soutien et comme connaissances.
Et cela, vous en avez la preuve aussi, Laurent Gerbeau, en tant que médecin directeur du pôle santé handicap étudiant à l'université Clermont-Auvergne, et puis surtout en tant que président de l'association des directeurs de services santé universitaires, parce que vous devez avoir des remontées sur l'ensemble de la France. Est-ce que cette question de disparité territoriale, par exemple, vous la ressentez, ou est-ce que vous n'en avez pas pour l'instant de preuve?
Oui, bien sûr, il y a des problèmes de disparité, il y a des inégalités, et elles sont pas que territoriales. Il y a aussi, en fonction de filières, et pour reprendre ce qui était dit auparavant, il y a des filières qui donnent plus de garanties d'avenir que d'autres, et ça, on le ressent également. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que on n'est pas dans une crise sanitaire majeure. Alors, je suis un peu choqué, mais le problème n'est pas le nombre de décès au sens où le nombre de décès vient à atteindre l'économie fait que ça peut plus fonctionner. C'est pas Ebola, c'est pas la peste noire, et le directeur de l'OMS l'a bien précisé il y a à peu près une semaine en disant que ça pourrait être nettement pire. Par contre, on est dans une crise qui révèle des fragilités, qui sont des fragilités extrêmement importantes. Et c'était le sens aussi du papier qu'on avait fait avec la tribune qui a été faite par Patrick Scan et à laquelle j'ai collaboré. C'était en novembre. Et il y a des fragilités qui sont présentes et elles sont aggravées par l'état de la situation actuelle. Mais au même titre que l'hôpital était en grève en octobre 2019, au même titre que etc. Et la question du devenir étudiant, la question de pourquoi on fait des études et la question de qu'est-ce que ça apporte comme garantie dans le futur, elle ne date pas de la crise du coronavirus.
Bien sûr.
Elle existait avant. Par contre, elle est amplifiée et elle devient extrêmement urgente maintenant.
Oui, alors tout de même, on sait que selon les endroits, eh bien, il y a très peu de psychologues pour 1000 à 1500 étudiants, c'est ce qu'on devrait avoir selon les recommandations des organismes internationaux. Je crois qu'on en est à 30 000 étudiants pour un psychologue en France, en université, c'est cela, Laurent Gerbeau. Et quand même, si on rajoute, comme l'a dit la ministre, une soixantaine d'assistantes sociales en plus sur l'ensemble des universités, ça ne va pas non plus permettre d'avoir plus de consultations.
Il y a un effort qui est fait, il est incontestable, 80 postes de psychologue, 60 postes d'assistante sociale, au niveau national c'est un effort. Le problème c'est que c'est très difficile en situation de crise de rattraper 30 ou 40 ans de politique de désinvestissement de la santé des étudiants.
Oui, Patrick Skian.
Oui, je rejoins ça complètement. Là, le Premier ministre a effectivement annoncé qu'il allait doubler le nombre de psychologues. Donc, on passe à un psychologue pour 15 000 étudiants. Mais on peut toujours remarquer que c'est extrêmement loin d'un psychologue pour 1 500 étudiants. C'est extrêmement loin de la moyenne des pays développés aussi, qui est environ un psychologue pour 4 000 étudiants, je crois. Et ce doublement n'est pas pérenne. C'est seulement temporaire, d'après ce que j'ai compris. Mmh. Donc, il faut que cet investissement dans la santé mentale des étudiants, il faut que ça continue, parce que sinon, on va pas être préparé pour des situations comme la situation qu'on vit actuellement, où les étudiants sont extrêmement en difficulté et les services de santé universitaires n'ont pas les moyens pour venir en aide comme ils devraient pouvoir faire.
Ce que vous disiez dans un autre article pour le site Telos, Monique Dagneau, c'est qu'il y avait, c'est pas simplement cette génération des destins brouillés, mais que, tout compte fait, une crise comme celle-ci ébranle le système méritocratique. Et que ça, c'est très important que de le dire.
Mais si vous voulez, disons cette angoisse existentielle que doivent ressentir une grande partie des étudiants, même ceux qui sont dans des filières plus prestigieuses que d'autres, en fait, elle est quand même liée au poids du rôle de la méritocratie scolaire dans nos sociétés et en particulier en France, où on trouve une place dans la société quand même en fonction du parchemin qu'on a réussi à obtenir à travers un parcours universitaire. Donc, ça accroît évidemment cette angoisse en France. Mais la question que je me pose, c'est cet article que vous citez était peut-être un peu optimiste, mais je confirme que je vois les choses ainsi. La méritocratie scolaire, elle fonctionne de façon très, 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 très forte et déterminante, mais en même temps, elle est aussi un peu obscurcie par une image que ceux qui finalement réussissent dans leurs études, ce sont ceux qui ont eu des familles, qui les ont conduits, qui les ont soutenus. Et en même temps, aujourd'hui, dans les entreprises, dans plein d'endroits de la société, et en particulier à un moment où, disons, le système de production et le système de consommation est en train de changer fortement, je pense qu'il y a d'autres qualités qui sont requises, qui, alors je nomme dans l'article la débrouillardise, mais bon.
L'ingéniosité du moment, vous dites.
L'ingéniosité du moment, le fait de savoir jouer avec les règles, innover, être attentif, faire de la veille, être attentif à ce qui bouge, etc. Et donc, je me demande si dans ce contexte, il n'y a pas quand même une petite place qui est faite à ceux qui vont finalement essayer de jouer d'autres cartes que la méritocratie scolaire. Et ouais. C'est ce que je disais dans cet article.
Laurent Gerbeau, vous travaillez aussi, je crois, pour des missions locales pour l'emploi dans la région de l'Auvergne. Qu'est-ce que vous savez de la crainte, là on parle beaucoup des étudiants, mais il y a la crainte des autres jeunes qui ne voient pas leur avenir beaucoup moins brouillé que les étudiants, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'entrée dans le marché du travail depuis le début de cette crise, la difficulté qu'ils ont à s'orienter justement dans ce marché qui est très bouleversé?
Alors, pour être plus précis, j'ai travaillé au niveau national sur les liens entre les centres d'examen de santé et les missions locales pour l'emploi des jeunes. Donc j'ai des contacts, effectivement, avec des missions locales, mais pas qu'au niveau régional. Mmh. On a le pire du pire, c'est-à-dire qu'on a effectivement des jeunes qui sont pas en position de travail, qui ne sont pas en position d'études, et pour lesquels les capacités à trouver des solutions ont été d'autant plus atteintes que le type d'inclusion dans le travail qu'ils avaient, c'était typiquement la restauration, l'hôtellerie, ce type d'activité de service, et que c'est celle qui est de loin la plus touchée par la crise actuelle, et pour lesquelles, alors. Les étudiants, ils ont des services santé universitaires et c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il y a des antennes, il y a des écoles qu'on a du mal à toucher, mais au moins, a priori, il y a quelque chose qui existe. Et là, on est devant le fait qu'il y a priori rien qui existe.
Oui, et c'est-à-dire que le terme de décrochage s'appliquerait presque plus pour ces jeunes dont vous parlez qui tentent de rentrer dans le marché du travail que pour les étudiants eux-mêmes, parce qu'on peut encore attendre. D'ailleurs, on a dit beaucoup que certains étudiants s'étaient réinscrits en fac parce que ils pensaient encore attendre une année pour pouvoir le faire, pour pouvoir continuer leurs études, Laurent Gerbeau.
Alors bien sûr, il y a des stratégies d'attente via la fac, mais ce que je dirais, c'est que là, on est dans la logique de l'exclusion et de comment réinclure des jeunes dans un système, et que le décrochage, par contre, ça va concerner la notion d'étudiant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne vont plus être capables de suivre leurs études et décrocher du système d'études.
Vous le notez, ce décrochage, Patrick Skehan, avec Nightline, ou le risque de décrochage
des étudiants, oui. Ben oui, c'est très clair à travers l'ensemble de nos appels, parce que ça devient de plus en plus difficile avec chaque mois de continuer à suivre ses cours, de continuer à s'impliquer là-dedans. Et c'est particulièrement difficile pour les étudiants qui sont au début d'un cursus parce que on n'arrive pas à accrocher. C'est quelque chose d'extrêmement difficile pour beaucoup d'étudiants qui nous appellent, effectivement.
Oui, Monique Nadio.
Mais il me semble, en fait, pour les étudiants qui sont justement en début de cursus, ces cours à distance, le fait qu'une partie s'engage sur un cursus, une filière, que souvent ils vont changer après la première année ou même la deuxième année. Donc au total, je pense qu'il y a chez eux sans doute un sentiment de déréalisation. C'est-à-dire, à quoi cela mène-t-il ? J'ai du mal à suivre, à répondre à toutes les demandes que peuvent faire les enseignants, un sentiment de solitude, et donc, et c'est très peu concret, les premières années de l'université.
Bien sûr.
Donc, il doit y avoir, me semble-t-il, et c'est pour ça que je pense que le décrochage, il est quand même, pour une partie d'entre eux, probable, sentiment que, mais qu'est-ce que je fais là ? À quoi ça sert, tout ça ? À ce moment-là, peut-être de chercher d'autres voies, peut-être quelque chose de plus professionnel, de plus concret, de plus inventer des nouveaux métiers, ou gagner une certaine expertise nouvelle. Et c'est pour ça que il me semble qu'il devrait y avoir dans les universités des pôles, des personnes qui aident ces étudiants un peu perdus à se reprendre en main et à éventuellement se réorienter. Parce que là, on est vraiment parti pour 2 ans, me semble-t-il, de flottement général, si tout va bien.
Ouais. Laurent Gerbaud, d'autant que effectivement dans un pays, et tout à l'heure, Monique Daniaud y a insisté, où la question méritocratique est très importante, c'est qu'en plus, on est dans un système, un double système. Le système des grandes écoles ou des écoles payantes qui sont très chères. De l'autre côté, l'université, qui est souvent considérée comme moins prestigieuse par une partie de ses étudiants. Est-ce que justement, ça joue pas aussi sur l'orientation que l'on pourrait avoir sur le fait d'avoir peut-être fait le mauvais choix, parce que tout compte fait, quand on est dans une classe préparatoire, par exemple, eh bien, on a beau être 40 ou 50 par classe, eh bien, on continue, alors qu'à l'université, ça n'est pas le cas.
Oui, c'est. Alors, sur la question des réorientations, c'est un travail important qui est mené aussi par les services santé universitaire. Et on est parfois un peu confronté à la notion de qu'est-ce que c'est la réussite ou l'échec à l'université. Et nous, on considère que quelqu'un qui se réoriente vers un cursus qui peut être en dehors de l'université, mais qui correspond à ce qu'il souhaite, pour nous, c'est un succès. Mmh. Alors, quand on évalue les universités, le fait de ne pas finir un cycle d'études par un diplôme est considéré comme un échec. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est complexe. Je pense qu'il y a aussi une autre chose qu'il faudrait, c'est faciliter l'intégration dans l'université des étudiants, mais pas directement après le bac, mais plus tard. Et c'est une autre caractéristique pour moi du système universitaire français, c'est qu'il y a relativement peu de réentrées dans l'université, à part des masters, dont un des masters dont je m'occupe, mais il y en a relativement peu pour des gens qui auraient travaillé pendant 5 ans ou 10 ans et qui, à un moment donné, se disent bah, « finalement, c'est pour moi le bon moment d'entrer à l'université ». Et je pense que plus il y aura de fluidité dans les parcours et plus il y aura d'aide et de souplesse dans les parcours, et mieux les gens trouveront l'intégration et l'inclusion qu'ils souhaitent.
Avec cette idée puis, que l'échec n'est pas définitif, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si on
la vie
oui,
se
puis la réorientation n'est pas un échec.
Oui, c'est ça. C'est ça, bien sûr.
Parce qu'on n'était pas au bon endroit, c'est aider les gens à réorienter, c'est un succès. C'est extrêmement important. Mais je pense qu'effectivement, Monique Daniaud a entièrement raison. Nous sommes sur une telle culture du diplôme initial. Et il suffit de voir d'ailleurs la faiblesse de ce qu'est la formation continue, y compris dans des métiers comme le mien.
Mmh. Monique Daniaud, justement, sur cette question du poids aussi de la formation initiale, du fait qu'on ait fait, centrale ou polytechnique. Et puis voilà, on vit sur ce fait-là jusqu'à la fin de ses jours.
D'accord. On appelle ça, les sociologues appellent ça la tyrannie du diplôme initial. Mais d'abord, c'est vrai qu'il y a d'autres modèles. Moi, je pense au modèle danois, où effectivement, après le bac, les jeunes passent un certain nombre d'années à travailler ou éventuellement ceux qui sont le plus privilégiés à parcourir le monde. Et ils ne reprennent l'université que beaucoup plus tard. C'est un modèle
qui est très difficile en France.
Ce qui est pratiquement impossible en France.
Ne pas aller tout de suite à l'université après avoir eu son bac, ça veut dire...
Mais c'est prendre un risque, en tout cas.
C'est prendre un risque.
Au contraire, en France, à une époque, les statistiques de l'éducation nationale disaient telle personne est à l'heure, telle personne a un an d'avance, telle personne a un an de retard. C'est qu'on était classé en fonction, je pense que ça a dû disparaître, mais en fonction, à tel âge, vous devez faire telle chose. Ça, c'est la bureaucratie administrative, mais ça a peut-être disparu. Non, je pense que et puis, vous avez parlé des grandes écoles ou des écoles. Aujourd'hui, dans les classes préparatoires, vous avez 86 000 étudiants. Et c'est sur 2 ans. Donc c'est tout petit. On en parle tout le temps, mais c'est très peu par rapport aux 1,6 million d'étudiants qui sont dans l'université et puis aux 2,5 million d'étudiants globalement. Donc les journaux parlent toujours des écoles, des grandes écoles. C'est une toute petite fraction du monde des étudiants. La grande masse, elle est absolument pas là.
Mais cela peut augmenter, disons, non pas le désespoir, mais l'impression de déclassement de ceux qui sont très nombreux dans un endroit, alors que les autres sont plus ou moins privilégiés et qui peuvent continuer les cours en présence.
Mais cela dit, je pense vraiment que le modèle danois, c'est-à-dire cette idée que la vie n'est pas déterminée à 20 ans, qui est le cas en France, est quand même véritablement à revoir. Tous les ministres de l'éducation nationale connaissent effectivement ce modèle, mais à ma connaissance, personne n'a envisagé de le mettre en place.
Merci Monique Dagneau. Je rappelle que vous avez un livre à paraître avec Jean-Laurent Casselli, c'est Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France chez Odile Jacob, très bientôt. Merci à vous Laurent Gerbaud, médecin, directeur du pôle santé handicap étudiant à l'Université de Clermont-Auvergne et président de l'association des directeurs de services de santé universitaire. Et quant à vous, Patrice Kian, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes fondateur et délégué général de Nightline. Nightline, donc une association qui écoute les étudiants en difficulté. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Louise André, Rémi Baye, Fanny Richer, Iman Gilles, Hugo Boursier, à la technique Élise Leu et à la réalisation Alexandre Manzanares.